Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans Chefs-d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'Acmé Productions. Le musée Nicéphore Niépce, situé dans sa ville natale de Chalon-sur-Saône, rend hommage à l'inventeur de la photographie. Ici sont racontées ses recherches, ses intuitions, ses procédés qui, depuis, ont révolutionné les habitudes de la majorité des habitants de notre planète et plus encore aujourd'hui, où nos appareils sont envahis de photographies. Mais l'institution est aussi la maison de toutes celles et tous ceux, amateurs ou professionnels, qui ont fait de la photographie un mode d'expression essentiel. Et parmi eux, de grands créateurs qui ont consacré la photographie comme un art à part entière et dont les œuvres sont présentées au musée à l'occasion d'expositions rétrospectives ou thématiques. Enfin, en se promenant dans les salles de l'institution et dans ses réserves, on réalise avec une certaine émotion que ce lieu constitue également une sorte de mémoire commune de nos souvenirs. Ceux qui jalonnent différentes époques de nos existences et dont nous essayons de toutes nos forces de conserver la trace, car ils sont peut-être notre bien le plus précieux. Pour nous faire découvrir les réserves fascinantes du musée, nous serons accompagnés par Sylvain Besson, directeur des collections, Jean-Christian Bourcard, artiste photographe donateur de ses archives au musée, et Annabelle Simon, restauratrice de photographie. Allez, suivez-nous dans les traces laissées par le génial Nicéphore. Bonjour Sylvain, comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Très bien. Donc Sylvain Besson, vous êtes directeur des collections du musée Nicéphore Niépce.
Tout à fait.
Depuis combien de temps ?
Ça fait 20 ans que je suis au musée, ça va faire 14 ans que je suis le responsable des collections.
Donc vous connaissez Nicéphore comme si c'était quelqu'un de votre famille.
C'est ça, je l'ai croisé hier,
il
allait pas mal.
Il va bien ?
Ouais.
Bon, alors justement, une première question avant qu'on aille dans les dédales des réserves. Nicéphore Niépce, un nom déjà d'une poésie incroyable. C'est quoi ce prénom Nicéphore ? Est-ce que c'est pas l'annonce d'un destin finalement ?
Il le voulait comme tel en tout cas, parce que son vrai prénom c'est Joseph.
Ah oui.
C'est lui qui change son nom en Nicéphore, porteur de victoire, modestement.
Oui, oui. Il croyait en lui.
Il croyait en lui, oui, oui, très très tôt. Il invente énormément de choses. Il travaille sur la Draisienne. Il travaille un moteur
explosif. Qu'est-ce que c'est la Draisienne ?
La Draisienne, c'est ses vélos sans pédale et sans chaîne. Et en fait, il travaille sur la hauteur de selles réglables, le guidon mobile, des choses comme ça. C'est grâce à lui. Et puis, le moteur à explosion aussi, le pyrélophore, dont il dépose un brevet. Enfin voilà, il travaille sur énormément de choses.
Puisqu'il est pratiquement dans votre famille, vous le connaissez intimement. Quel était cet homme ?
C'était déjà quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il vivait de ses rentes. Il avait plusieurs domaines et propriétés. Et il finançait ses travaux comme ça, assez isolé dans son laboratoire, criblé de dettes, comme il va de soi.
Je l'ai présenté avant de vous rencontrer comme vraiment un aventurier des temps modernes. Alors justement, à propos d'aventure, vous voulez nous montrer, avant que nous plongeons dans les réserves, un objet un peu fondateur qui finalement résume cette aventure. Alors, quel est-il ?
Cet objet, c'est le premier appareil, celui qu'utilisait Nicéphore Niépce pour prendre la première photographie. On le met pas en réserve forcément parce que les gens viennent de partout pour voir cet appareil, même s'il est un peu frustrant parce qu'il manque l'objectif. Mais par contre, c'est une chambre à tiroir très classique, comme on les connaît ensuite les 30 ans qui suivront, qui lui permet donc de faire entrer la lumière dans une boîte et de poser un support sensible à l'intérieur pour fixer l'image qui se forme dans la boîte, cette caméra obscura.
Donc on dit, c'est l'inventeur de la photographie. Qu'est-ce qu'il invente ?
À l'époque, on sait qu'une image se forme dans une caméra obscura, mais on ne sait pas fixer l'image qui se forme dans cette caméra obscura. Et il est le premier à réussir à fixer cette image de manière avérée, parce qu'il y a un résultat très concret, qui est ce qu'on appelle le point de vue du gras, qui est la première photographie. Lui, il appelle ça un point de vue. Et la deuxième chose qu'il arrive à faire, c'est décliner son procédé de fixer une image sur un support en réalisant une invention qu'il appelle les copies de gravure, c'est-à-dire partir de gravures, d'estampes existantes, et de les reproduire en utilisant la lumière et un support photosensible.
Et alors, quand il découvre ça, est-ce qu'il a conscience qu'il découvre un objet qui va révolutionner quand même le monde ?
Alors, il en a pleinement conscience parce qu'il écrit à son frère au moment où il découvre son procédé, où il arrive à obtenir un premier résultat, qu'il est comme Christophe Colomb qui découvre un nouveau continent.
Ah oui ?
Ouais.
Donc, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est modeste aussi, encore une fois. En fait, en 1829, Niepce rencontre Daguerre et il décide de s'associer avec Daguerre. Et Daguerre et Niepce avancent ensemble jusqu'en 33. Niepce décède en 33, avance tout seul jusqu'en 39 et commence à faire connaître à l'Académie et un certain nombre de gens son procédé photographique, le daguerreotype. Et Bayard en entend parler et lui se met à la photographie aussi.
Alors, dites-nous qui est Daguerre.
Alors Daguerre, c'est un homme de spectacle. C'est pas forcément un inventeur à proprement parler, mais c'est quelqu'un qui travaille à faire des spectacles son et lumière au 19e siècle à base d'ombre, de fumée, de jeux de lumière. Et donc Daguerre, il a une salle de spectacle à Paris avec un spectacle de son et lumière qu'il appelle le Diorama. C'est ce qui fait sa fortune d'ailleurs, c'est ce qui va lui permettre de financer un certain nombre de travaux. Et c'est d'ailleurs pour améliorer ses spectacles qu'il rencontre Niepce, pas par hasard. Il se fournit en optique et en verrerie pour ses jeux de lumière chez un opticien qui s'appelle Chevalier. Et Niepce allait chez le même fournisseur pour les optiques de son appareil. Et donc c'est Chevalier qui les fait se rencontrer en leur disant, à mon avis, vous avez des choses à vous dire. Et ils scellent un contrat d'association ensemble.
Alors maintenant, on va rentrer plus avant dans les réserves. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Alors, je vous emmène dans les réserves d'appareils.
D'accord.
On va
bien.
Commencer par là, parce
Parfait.
Que toute image commence avec un appareil.
Alors, allons-y. Alors Sylvain, nous sommes dans quelle partie des réserves ?
Alors, on est dans la réserve Combier, qui est une des 8 réserves du musée. Et ici, on y stocke les appareils photo et tous les accessoires liés à la prise de vue et au développement, au tirage. Et
pendant votre gouvernance, quel est l'objet le plus extraordinaire qui vous soit parvenu ?
Vous avez un magnifique appareil avec des systèmes de masques et de cache qui fait que quand vous êtes pris en photo, au moment du tirage, vous êtes à côté de Johnny Bratsubratsu.
Ah, ça c'est
je peux
pas
vous
mal,
montrer ça.
Oui, je veux bien. Allons-y.
Allons-y. L'appareil s'appelle Votre photo avec Johnny.
Et d'ailleurs, on voit Johnny, alors il faut quand même le décrire, parce que là, c'est dans, vraiment dans sa splendeur.
Ah, c'est le grand Johnny avec
c'est
sa...
C'est le grand Johnny qu'on aime.
Le carré blond. Et puis, vous avez plusieurs positions. C'est-à-dire, à un moment, il vous regarde avec une veste en zèbre.
Oui.
Et donc, il y a le blanc, ça sera vous. Il y en a un autre, il a une sorte de Marcel en cuir. Et il y en a un autre, il est posé sur une Ferrari.
Et donc, vous preniez la photo.
Ouais.
Et vous vous retrouviez avec Johnny à côté.
Exactement. Oh. Et alors, bonus, alors c'était diffusé par Carrefour.
Ah oui ?
Et il était vendu avec un CD inédit de Johnny. Donc, il n'y a que les gens qui ont acheté cet appareil qui ont ce CD inédit.
Et ça vous vient comment, alors, par exemple ?
Alors, celui-là, on l'a chiné.
Ah oui, vous l'avez
ouais,
chiné ?
Celui-là, on l'a chiné, ouais. Ouais, ouais. Emmaüs, c'est notre meilleur ami.
Ah, d'accord. D'accord, très bien. Vous nous disiez tout à l'heure, Sylvain, que le musée conserve aussi des fonds de photographes, c'est ça ?
Oui, on conserve des fonds de photographes.
Alors, je crois qu'il y a dans la maison un photographe, ça s'appelle Jean-Christian Bourcard, qui prépare une exposition, une rétrospective. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait le rencontrer pour parler ?
J'en suis sûr.
Vous êtes sûr ?
J'en suis sûr, s'il n'est pas trop malade.
Bon, vous êtes quelqu'un de convaincant. Alors, on va le retrouver ?
On va le retrouver. Il est au laboratoire.
Parfait. Thank you. Alors Sylvain, où est-ce que nous allons là? Ah, il y a quelqu'un.
Bonjour.
Alors c'est le frigo à photographie.
C'est le frigo à photographe. Jean-Christian Bourcard, annoncé par Sylvain, je crois que vous allez être maintenant un donateur important. Oui. Et que parallèlement, il y a une exposition qui vous est consacrée, une rétrospective bientôt, c'est ça?
Oui, c'est ça. En octobre 2024, on est en train de préparer ça, à partir justement de tous les fonds que je laisse au musée.
Alors Sylvain va être, je crois, un des commissaires de l'exposition. Et donc, pour vous présenter, est-ce que vous pouvez nous montrer une partie de ce fonds pour qu'on découvre votre travail?
Bien là, ce sur quoi je suis en train de travailler, ce sont des carnets un peu de recherche que je faisais à New York vraiment au début de ce siècle, donc vers les années 2000-2005, où je faisais plein de photos avec des petits appareils et je les mettais dans des carnets en plastique avec des petits tirages 10-15. Il y a 40 carnets.
On peut les voir?
Oui, ils sont rangés par sujet. Donc là, on est dans le carnet display.
Oui.
Il y a des publicités dans la ville, il y a des choses qui... pas mal d'images dans l'image, on va dire. Des images qui sont sur les bus. Donc il y a une sorte de confusion entre... qu'est-ce qu'on voit, ou est-ce qu'on voit l'image ou est-ce qu'on voit le support, on va dire. Mais il y a plein d'autres carnets, il y en a dans les clubs SM, parce que j'ai fait ça à l'époque. La série Trafic, elle est assez connue, justement, de cette période-là.
Qu'est-ce que c'est, Trafic?
Trafic, c'est... j'habitais sur Canal Plus, Canal Street, pardon. Une rue très encombrée à New York, et je descendais aux heures de pointe photographier les gens dans les embouteillages.
Donc vous travaillez comme ça?
Je descendais juste de chez moi, c'était
oui.
En bas de chez moi.
D'accord.
Et je passais 2 heures à photographier avec un gros téléobjectif. Donc c'est un geste assez violent, puisque c'est vraiment pointer un objectif vers quelqu'un, oui. Etc.
Oui.
Mais c'était aussi l'intérêt du travail, c'était cette tension entre moi essayant de capturer quelque chose d'eux et eux voyant que j'étais en train de le faire.
Ces carnets, là, c'est donc une partie de ce que vous allez donner
fait, oui.
Dans les archives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a 15 ans de photographie noir et blanc, Hasselblad. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire des photos personnelles d'abord. Après, avec les Libérations, j'ai beaucoup travaillé à Libé. Il y a d'autres sujets, par exemple sur Camden aux États-Unis. Ou...
qu'est-ce que c'est Camden?
Camden, j'ai cherché, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'ai cherché sur Internet la ville la plus dangereuse des États-Unis.
Oui.
Ce sont des ghettos. Voir qu'est-ce qui se passait quand on allait traîner dans ces endroits-là, en y allant de nouveau, et comment on arrive à tisser des relations, quel type de relations.
Et comment on arrive à photographier?
Oui, quelle stratégie de photographie on peut déployer dans ces endroits-là.
Vous, quand vous alliez photographier ça, quel est le regard que vous portiez, et puis qu'est-ce que vous en avez retiré après, finalement, de toutes ces expériences, notamment l'expérience américaine, par exemple?
Ce que j'aime bien, c'est un peu regarder dans les recoins, on va
dans
dire.
Les interstices, un peu.
Dans les interstices, des choses qui sont pourtant tout le temps là, ouais, et auxquelles on ne fait pas vraiment attention.
Et alors Sylvain, là on va s'adresser non plus au directeur des collections, mais au commissaire d'exposition. Alors quel regard vous portez justement sur ce travail qui vous est apporté? Comment vous l'accueillez?
Bien volontiers. On avait titré la première exposition « Une excuse pour regarder
».
C'est un peu ça, en fait. Il regarde beaucoup, il photographie beaucoup. Et de voir comment est-ce qu'il se sert de cette matière première pour produire des images artistiques qu'on accroche au mur.
Mmh.
Et du coup, c'est une habile transition, juste pour dire que la figure de Jean-Christian, c'est une figure parmi d'autres de tous ces photographes qui travaillaient pour la presse et qui, tout d'un coup, ont basculé dans un autre monde d'images, qui est celui de l'art, qui est celui de la cimaise, mais toujours en ayant cette réflexion sur le monde qui nous entoure à travers la photographie. C'est toujours ce fil rouge-là.
Donc, il correspond à une génération de photographes.
Tout à fait. Oui. Tout à fait, oui.
Et qu'est-ce qui est important dans le fait d'accueillir une œuvre comme celle-là?
Lui, comme pour d'autres, c'est des productions qui vont disparaître. En fait, ça fait partie des derniers Mohicans de l'argentique, ou en tout cas qui ont basculé maintenant un peu vers le numérique. Mais en tout cas, dans le changement de la nature des pratiques, des supports photographiques utilisés, il y a toute une génération qui est en train de disparaître. Et toute cette trace du monde photographié, on peut encore la conserver. La question se pose pour après, quand on n'aura que des disques durs et des numériques. Est-ce qu'on aura encore les logiciels pour ouvrir, les machines pour les ouvrir, les lire, les comprendre? Et là, ce qu'il y a de bien avec la relation qu'on a avec Jean-Christian ou avec Bertrand Meunier, avec d'autres, c'est qu'ils sont encore là pour nous raconter ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. C'est très très précieux, parce que souvent dans les musées, on a tendance à travailler avec des gens qui ne sont plus là.
Bien sûr.
Et là, c'est une archive qui est très vivante, qui est toujours nourrie. Lui, il est encore là et il est encore vif. Et donc, on a plein de questions à lui poser. Il a plein de choses à raconter.
Il a l'air très vif.
Il a l'air très vif, même s'il est un peu malade aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que c'est pour comprendre la photographie et comment elle se pratique, c'est eux la matière première. C'est eux les experts de la photographie. Ouais. C'est pas nous. C'est pas parce qu'on a 4 millions de photos qu'on la connaît autant que eux qui la pratiquent.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide, quand on est artiste photographe, de transmettre ses archives à une institution publique plutôt que de les transmettre à sa famille ou à d'autres institutions qui ne sont pas publiques? Comment on fait?
Déjà, les familles, elles ont la trouille quand elles savent qu'elles vont recevoir 2 caves entières, une à New York et une à Paris, plein de choses qui ne les concernent pas et qu'il faut gérer, qu'il faut conserver. Je suis très très content de pouvoir leur éviter ça.
Oui.
Et puis, malgré tout, c'est quand même une sorte de consécration, puisque ça rentre dans les musées nationaux et qu'on sait que ça va être conservé dans de très bonnes conditions pour toujours. Donc là, il y a quand même un aspect qui est très... une grande, grande valorisation du travail. Hein. Et c'est le problème de beaucoup de photographes de ma génération qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs archives.
Bon, déjà, la découverte du musée Nice et Fornias, c'est une formidable découverte, je dois le confesser à ce stade de cet enregistrement. Mais alors, en plus, voir le travail de Jean-Christian exposé avec cette confiance et cette interaction entre vous deux, très productive, je crois que ça va être un grand moment.
On espère.
Voilà.
Merci.
Merci
beaucoup.
Vous avez voulu qu'on quitte le musée. Vous vouliez nous présenter quelqu'un dont vous m'avez dit elle est précieuse, voire même indispensable au musée. De qui s'agit-il ?
Il s'agit d'Annabelle Simon, qui est restauratrice de photographie. Et elle est très précieuse parce qu'elle a un savoir-faire que nous, on ne maîtrise pas. Et même, on n'a pas le droit d'exercer, en fait, sans diplôme. Et donc, elle est diplômée. C'est une des premières restauratrices photo en France à avoir le diplôme, pour les albums de photos, en tout cas. Et elle travaille avec nous depuis plus de 20 ans. Et elle est à 200 mètres du musée, ce qui est très pratique quand on est en montage d'expo et qu'on a un problème.
Donc, on va dans son atelier.
C'est parti.
Alors, nous arrivons dans l'atelier de Annabelle Simon. Bonjour, Annabelle. Comment allez-vous ?
Bonjour. Bienvenue.
Alors, il nous a dit que vous étiez quelqu'un de précieux, voire même d'indispensable. Est-ce bien vrai ?
Bien sûr.
Ah bon, très bien. Alors, ça consiste en quoi être restauratrice de photographie ?
Alors, tout ce qui arrive ici en restauration, le premier point, c'est le nettoyage. C'est capital de repartir d'un document propre. Pour comprendre déjà, c'est une première approche qui permet d'avoir accès à la matière de manière proche. Ensuite, on a toutes les consolidations, que ce soit des déchirures, des trous, des insectes qui aient pu grignoter les émulsions ou les papiers. Parfois, on a des lacunes. Donc ça, c'est tout ce qui est restauration physique, consolidation. Et la dernière étape, souvent, c'est la retouche.
D'accord. C'est quoi la retouche alors ?
Alors, la retouche se fait avec souvent de l'aquarelle.
Ah oui ?
Et parfois des pigments à sec, plutôt sur les cartons. Mais sinon, c'est de l'aquarelle.
Il doit tout contrôler, j'imagine, Sylvain. Alors, quelle est votre liberté par rapport à une œuvre dans la retouche, justement ? On comprend très bien le nettoyage, la consolidation, mais dans la retouche, est-ce qu'il s'agit en fait d'un dialogue avec le directeur de la collection pour savoir jusqu'où vous pouvez aller dans cette retouche ?
Oui, oui. Il y a toujours un dialogue... avant toute restauration, même dans les consolidations. Parfois, on fait le choix de ne pas tout restaurer. Ça dépend de l'œuvre, de son utilisation, de sa conservation, si elle va être exposée ou pas après, de sa préciosité aussi. Et au niveau de la retouche, effectivement, il y a des degrés d'intervention. Parfois, on va décider de ne pas faire de retouche du tout, et parfois, d'aller un peu plus loin... sans aller vers l'illusionnisme pur, ce qui est impossible puisqu'on est des matières différentes entre l'aquarelle qui est pigmentaire et la photographie argentique, mais parfois on va quand même essayer que ça se voit le moins possible.
Alors là, on voit votre bureau est rempli de vieilles photographies et j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler à la restauration de ces photographies. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? De quoi s'agit-il ?
Alors là, nous avons affaire à des photographies gélatino-bromure d'argent.
Nous sommes un peu des béotiens, vous savez, là, il faut nous expliquer.
Des photographies argentiques, noir et blanc,
d'accord,
basiques, d'après-guerre.
Oui.
Voilà. Il y a une étape de nettoyage de ces photographies-là. Et en fait, nous avons découvert, en enlevant les passe-partout, que ces montages avaient été faits pour cacher des altérations, puisque c'est passé en salle des ventes. Donc, nous avons découvert en dessous des altérations causées par des moisissures et peut-être des insectes. Donc là, nous avons des morceaux d'images qui ont complètement disparu, de la gélatine qui se soulève, qui s'écaille. Voilà, donc il va falloir stabiliser et envisager peut-être une retouche.
Alors, Sylvain, ce fond-là, quand vous l'avez confié à Annabelle, d'où provient-il? Quel est son intérêt? Parce que j'imagine, quand vous investissez dans la restauration d'un fond comme ça, c'est qu'il y a un intérêt patrimonial ou artistique. Alors, celui-là, de quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit du fond Marcel Artaud, qui est un des fonds complets de photographes qu'on conserve actuellement, qui a été donné par la famille de Marcel Artaud il y a quelques années maintenant, et qui est le 201e photographe à avoir une carte de presse en France. Il a eu une carte de presse dès la libération de Paris, et il va avoir une commande de De Gaulle pour aller photographier les ruines du Havre après les bombardements. Et ensuite, il va accompagner de là de Tassigny jusqu'à Strasbourg, la libération de l'Alsace, jusqu'à Berlin, la fin de la guerre, et après il reste une dizaine d'années en Autriche avant de revenir en France.
Alors vous, Annabelle, quand vous recevez un fonds comme celui-là, quelle est votre première réflexion? D'abord, est-ce que vous êtes touchée par l'œuvre?
Oui, toujours.
Toujours?
Bien sûr.
Oui.
C'est surtout le cas quand on restaure des albums photos.
Oui.
Parfois, on a des albums de famille ou des albums de voyage, où là, on rentre vraiment dans une histoire chronologique, une narration, et ça, c'est passionnant.
Et il fait qu'on devient restauratrice de photos.
Petite, ma mère était archéologue.
Ah, ben voilà, tout s'explique. Hein, c'est ça.
Voilà.
Oui, la filiation est là.
Voilà, là. Donc j'ai toujours, en tant que petite fille, vu ma mère essayer d'identifier des tessons qu'elle ramenait des chantiers archéologiques et essayer de reconstituer des pots, des assiettes, des vases anciens, ou simplement avec une tesselle identifier ce que c'était. Je trouvais ça magique.
C'est ce que vous faites en fait.
Voilà. Donc, je suis tombée un peu là-dedans par ma mère. J'ai fait l'histoire de l'art, je faisais de la photographie et voilà, de fil en aiguille. Je suis devenue restauratrice de photographie.
Annabelle, merci de nous avoir reçus. Sylvain, merci également. En conclusion, d'abord vous dire qu'on est un peu triste de quitter cet endroit que je ne connaissais pas et que j'espère avoir fait découvrir à beaucoup de gens. C'est un musée extraordinaire. C'est un musée d'ailleurs insoupçonné, inouï, parce que peut-on imaginer qu'il contient une sorte de mémoire de l'univers, de nous tous d'une certaine façon. Et le plus émouvant aussi, je trouve, c'est la passion qui anime les gens quotidiennement dans ce travail de fourmi qui consiste à prendre les archives, en prendre soin, à les restaurer, à les mettre en lumière. Et je crois qu'on, tant qu'on n'est pas venu au musée Nicéphore-Niépce, on n'a pas idée de ce que ça la représente comme engagement, comme implication au service d'une mémoire qui est une mémoire collective. Donc merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter le podcast Chefs-d'œuvre en réserve. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Chefs-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acmé Productions, d'après une idée originale de François Giannesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Bolloc-Salama. Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Dokuto et Ismaël Kamara. Enfin, mixage, Ben Auriel. À bientôt.